Jusqu'au 17 janvier 2016, la métropole lilloise va vibrer au rythme de la 4e édition thématique de l'île 3000 Renaissance. À travers des expositions, débats ou concerts, vous serez invités à découvrir différentes villes comme Détroit, Eindhoven ou encore Séoul. Des villes qui connaissent aujourd'hui une renaissance économique et culturelle. Rencontre avec Thierry Le Sueur, coordinateur général de l'île 3000.
D'abord, l'île 3000, c'est la suite de l'île 2004, la capitale européenne de la culture. Tout le monde s'en souvient, ça a changé beaucoup de choses à Lille, dans la région, dans la métropole. Et donc, la volonté de Martine Aubry, mais aussi de tous les partenaires qui avaient réalisé le succès de l'île 2004, était que ça continue et que ce soit pas simplement une belle année avec des beaux souvenirs, mais une sorte de laboratoire et que ça puisse effectivement continuer. Donc, l'île 3000 est née, on est effectivement à la 4e édition. On avait eu en 2006 les bons baisers de Lille, donc sur la thématique de l'Inde. En 2009, c'était Europe XXL, donc 20 ans après la chute du mur de Berlin. Donc une Europe qui allait jusqu'au Kazakhstan, jusqu'à Istanbul. Fantastique en 2012, donc peut-être la plus belle des éditions, avec 2 millions de visiteurs en 3 mois, plus de 800 rendez-vous dans toute la métropole. Et puis donc cette fois-ci, c'est Renaissance, donc nouveau projet sur le même principe avec là aussi beaucoup de rendez-vous, beaucoup d'expositions, beaucoup de communes de la métropole, 77 exactement impliquées dans le projet et un projet positif.
Un projet positif, mais pourquoi sur cette thématique Renaissance ?
En fait, c'est venu très très vite après, juste à la fin de Fantastique, où à la fois on avait bien senti que le public, les gens avaient envie de pouvoir s'émerveiller, et puis aussi essayons de monter un projet positif. Il ne s'agit pas de dire que tout va bien, mais de réfléchir comment finalement les choses sont en train de bouger, où il y a plein d'initiatives un peu partout et qui peuvent faire penser effectivement à la Renaissance historique. Donc peut-être nous sommes à la veille d'une nouvelle Renaissance. Et donc on est parti sur cette idée d'inviter des villes qui sont en Renaissance, qui ont subi des chocs sociaux, économiques, et qui sont en train ou ont réussi leur renouveau, leur Renaissance. Donc ces villes, c'est Rio, qui est en permanente Renaissance, on pourrait dire. Détroit, qui est la capitale de l'automobile, où il n'y a plus d'automobile, où il n'y a plus grand-chose, mais en même temps, un nouveau modèle, toujours à partir des artistes et des habitants, est en train de voir le jour sur les fermes urbaines, sur la manière de se prendre en charge. Eindhoven, c'est la ville de l'ampoule électrique, hein, où tout s'est arrêté du jour au lendemain, 40 000 emplois perdus, et qui s'est reconstruite et qui a réussi sa mutation en misant sur les universités, la recherche, le design, la lumière, et puis sur un modèle tout à fait particulier. Séoul, ça c'est la grande mégalopole qui n'existait quasiment pas il y a 40 ans. On sera dans le cadre de l'année de la Corée en France. Et puis Phnom Penh, c'est après le drame et le génocide des Khmers Rouges, donc une ville qui est en train de repartir, et là aussi à partir des artistes. Et donc c'est toujours cette vision de ces mutations à travers le regard de ces artistes qu'on souhaite proposer dans ces villes invitées qui auront chacune une exposition et puis dont on pourra trouver des manifestations, des spectacles, des concerts, des week-ends entiers pendant ces quasiment 4 mois de Renaissance.
Vous l'avez dit, ce sont des villes qui ont connu un choc, une mutation sociale, économique. Est-ce que c'est le cas de Lille ?
Alors justement, l'idée, c'est d'aller voir ailleurs pour finalement aussi mettre en valeur ce qui se passe à Lille. Donc à Lille, dans les quartiers, dans la métropole, dans les communes. Je parlais tout à l'heure des 77 communes, et ça, c'est vraiment important, puisque pour Fantastique, il y en avait 70, et pour l'île 2004, il y en avait 24. Donc il y a eu vraiment un mouvement et un travail finalement qui paraît maintenant évident pour les communes, de s'associer pendant un temps donné et d'avoir une programmation qui résonne sur des thématiques qui sont communes. Donc on va essayer de montrer, comme on le fait souvent ou à chacune des éditions, toutes les initiatives, tous les artistes, les collectifs On travaille évidemment avec tous les musées, tous les théâtres, l'Orchestre National de Lille, l'Opéra, la Condition Publique, enfin vraiment tous les lieux de culture ou associations également. Et puis aussi, et ça sera sans doute dans le cadre du projet Eindhoven qui sera installé à la Maison Folie Moulin, autour des makers, donc les designers, tous ceux qui inventent finalement peut-être les modèles de demain, donc qui seront concentrés à Eindhoven, où il y aura quantité d'ateliers, on va avoir un Fab Lab, des imprimantes 3D, des découpes laser. Enfin, l'idée est vraiment que le grand public, les enfants, les familles en particulier, puissent découvrir et s'approprier ces nouveaux modes de fabrication, de recyclage aussi, de travail en commun, de mutualisation, de travail ensemble, qui sont effectivement emblématique de ce mouvement des makers et particulièrement à Eindhoven.
Jusqu'au 17 janvier, la gare Saint-Sauveur de Lille accueillera une exposition consacrée à Détroit ainsi qu'une grande ferme urbaine. Quant au Tripostal, il vous accueillera pour l'exposition Séoul Vite Vite. Les nombreux rendez-vous qui jalonneront Renaissance sont à découvrir sur le site internet www.renaissance-lille.com. Retour maintenant auprès de Thierry Le Sueur de Lille 3000 pour savoir si, selon lui, Lille est encore aujourd'hui une capitale de la culture, 11 ans après Lille 2004, capitale européenne de la culture.
Je vais citer Anvers, qui avait été capitale européenne de la culture en 2001, je crois, qui avait dit « Quand on est capitale européenne de la culture, on l'est pour toujours ». Et je crois que c'est vrai, d'autant plus à Lille, puisque dans les différentes villes qui ont été capitales européennes de la culture, il n'y en a pas tant que ça qui continuent, maintenant ça va faire 12 ans après, d'avoir comme ça une activité et de continuer sur ce dynamisme à la fois qui fédère l'ensemble des partenaires de la ville, qui donne tout d'un coup un grand coup de projecteur qui attire l'attention évidemment des médias régionaux, nationaux, internationaux, des visiteurs qui viennent quelquefois de loin, et puis aussi qui fédère, puisque c'est toujours le cœur du projet de Lille 3000, de faire avec les habitants de Lille, de la métropole, et de construire ensemble ce qui est effectivement, là, avec Renaissance, cette nouvelle édition.
Peut-on dire que Lille 3000, c'est une grosse entreprise de politique culturelle et touristique ?
Je ne sais pas. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un laboratoire et qu'on expérimente un certain nombre de choses, donc qui, effectivement, couvre plusieurs champs. La culture, bien sûr, l'art, évidemment, l'éducation, avec tout le travail qu'on fait avec les écoles, avec les centres de loisirs, les mairies de quartier, etc., etc., qui couvre évidemment le tourisme, parce que l'idée, c'est effectivement de donner envie de venir à Lille. Et depuis 2004, je crois que ça marche plutôt bien. Voilà. Et puis, dans la compétition des grandes villes ou des grandes métropoles, il faut toujours trouver sa particularité et donner envie de... Il faut se faire désirer, tout simplement.
À l'heure actuelle, où nous assistons à un désengagement progressif de l'État pour certaines structures ou événements culturels, les rendez-vous de Lille 3000 peuvent être parfois mal perçus, voire critiqués. L'avis de Thierry Le Sueur, coordinateur général de Lille 3000.
C'est une remarque qui apparaît de temps en temps. J'avoue que je ne la comprends pas bien, parce qu'effectivement, une grosse partie de la programmation de Lille 3000, de Renaissance en particulier, enfin, comme à chacune des éditions, elle est faite avec et par les partenaires culturels de Lille, de la métropole. Et encore une fois, on essaie et on est toujours à l'écoute des nouveaux talents, des nouveaux groupes. Moi, je n'ai pas connaissance de groupes ou d'acteurs culturels qui se soient vus refuser un projet à Lille 3000. On essaie toujours de trouver la bonne entrée qui va faire que on va pouvoir faire quelque chose ensemble.
On va continuer un peu à parler d'argent et on va dire plutôt de subventions publiques. Actuellement en France, on va dire que la culture est un peu en berne avec de nombreuses baisses de subventions. On l'a vu cet été, des festivals qui n'ont pas pu avoir lieu. Est-ce votre cas, baisse de subventions ou non ?
Oui, en tout cas, par rapport à Fantastique, on a dû faire effectivement face à une baisse des moyens de l'ordre de... 30% à peu près, donc c'est important. Alors qui peuvent venir soit de participations moins importantes de financeurs publics ou de partenaires privés, puisque ça c'est peut-être la particularité de l'île 3000, où à côté des partenaires publics, des financeurs publics, évidemment la ville de Lille, la métropole, aujourd'hui c'est encore 42% du budget qui vient des partenaires privés, mécènes, qui soutiennent l'île 3000 depuis le début, comme ils étaient là pour l'île 2004. Donc ça c'est vraiment une particularité ici à Lille, mais même au niveau national, il y a très très peu de structures ou de festivals ou d'événements qui ressemblent à l'île 3000, il faut le dire, mais qui effectivement ont un financement qui, à ce niveau de plus de 40%, qui vient des partenaires privés.
Pour revenir à cette politique culturelle publique de la France, votre opinion sur cette politique publique de la culture en France ?
Je crois qu'on est toujours champion du monde du soutien public, en particulier à la culture. Il faut aller voir du côté des autres pays, même en Europe, c'est catastrophique. Enfin, on a toujours la chance d'avoir un réseau et un maillage au niveau national d'équipements et puis de collectivités qui sont très très impliqués et qui soutiennent effectivement les différentes politiques culturelles, les différentes politiques artistiques, ça c'est indéniable. Alors évidemment aujourd'hui on voit bien que les moyens ont tendance à réduire, mais qu'on peut dire tout simplement c'est que le coût de la non-culture est bien plus élevé que le coût de la culture.
À vous maintenant de vibrer au rythme de Renaissance. Pour en savoir davantage, le www.renaissance-lille.com ou le www.lille3000.com. Et rendez-vous sur le site internet www.franf.fr pour découvrir les différents reportages des radios de la Fédération des radios associatives du Nord de la France consacrés à Renaissance de l'île 3000. Un reportage de Marjolaine Labelle de Radio Boomerang.